Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un village d'Ogon quasiment rasé dans le centre du Mali. Une attaque armée a fait près de 100 morts, 2 mois et demi après un massacre de Peul dans la région. Nous joindrons notre correspondante à Bamako dans un instant. 12 enfants de djihadistes sont rentrés en France. Il s'agit d'orphelins dont certains sont malades et dénutris après leur séjour dans des camps surpeuplés du nord-est de la Syrie. C'est la confusion en Moldavie. La Cour constitutionnelle a démis de ses fonctions le président pro-russe et l'a remplacé par son premier ministre, un adversaire politique, qui a aussitôt dissous le Parlement. Nous ferons le point sur la situation avec Audrey Tison. Et puis une belle histoire dans ce journal. David Philippot nous racontera comment une synagogue berlinoise, détruite lors de la nuit de cristal, va être reconstruite grâce à un élu d'origine palestinienne. Le gouvernement malien dit soupçonner des terroristes. Un nouveau massacre a été perpétré cette nuit dans le centre du Mali, dans cette zone prise en étau entre la menace djihadiste et les conflits intercommunautaires. En quelques heures, le village d'Ogon de Sobanekou a été presque entièrement détruit et il y a de nombreuses victimes. Un bilan provisoire fait état d'au moins 95 morts et d'une vingtaine de disparus. La correspondance de Marie Matigo.
C'est horrible, a lâché au téléphone le maire de la commune de Sanga, où se trouve le village attaqué. Il décrit un village quasi entièrement brûlé, de nombreux corps sont calcinés, difficilement identifiables. Certains ont même été totalement réduits en cendres. Le village d'Ogon de Sobanekou a été encerclé hier vers 17h, puis les assaillants ont mis le feu aux cases. Ils ont abattu les habitants qui essayaient de s'enfuir. Les forces de sécurité maliennes, elles, ne sont arrivées sur les lieux que ce matin. Difficile de connaître pour l'instant l'identité des assaillants. Selon le maire, des survivants affirment qu'ils parlaient peul. Dans le centre du Mali, les Peul et les Dogons notamment se sont organisés en groupes d'autodéfense dans une zone où la menace djihadiste est aussi présente. Les conflits intercommunautaires et les nombreuses représailles ont fait plus de 250 morts civiles depuis le début de l'année selon la MINUSMA. Ainsi, le 23 mars dernier, c'était le village Peul d'Ogosagou qui avait été attaqué par des chasseurs Dogons. Attaque qui avait fait près de 160 morts. C'est la pire tuerie depuis la crise de 2012 au Mali.
Au Brésil, une série d'articles publiés par le site d'investigation The Intercept met en cause l'impartialité de l'opération Lavage à taux, Lavage Express, la plus grande opération anticorruption au Brésil qui a abouti l'an dernier à l'incarcération de l'ex-président Lula. Les responsables de l'enquête auraient manœuvré pour empêcher le retour de Lula au pouvoir. Les précisions de Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro.
Les révélations publiées dimanche soir par The Intercept secouent une nouvelle fois un pays qui va de scandale en scandale. Les conversations qui ont eu lieu sur les applications WhatsApp et Telegram révèlent que le juge Sergio Moro, responsable de la condamnation de l'ex-président Lula et aujourd'hui ministre de la Justice du gouvernement Bolsonaro, a entre autres conseillé le procureur en charge de l'affaire pour monter son acte d'accusation. D'autres conversations montrent qu'en pleine campagne présidentielle, des procureurs se sont organisés pour empêcher un interview de Lula, alors en prison, par crainte qu'il ne puisse aider à faire élire son successeur. Pour les critiques de l'opération Lavage à taux, les révélations sont la preuve de la persécution dont a été victime l'ex-président Lula pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle en 2018. Beaucoup appellent déjà à des sanctions contre les procureurs et Sergio Moro et attendent de nouveaux scoops du journal qui assure disposer de nombreux documents compromettants. Les procureurs et l'ancien juge ont tous réagi dénonçant des fuites criminelles dues à des hackers et nient toute irrégularité. Les trois fils du président Bolsonaro se sont aussi exprimés pour défendre l'un des deux ministres indispensables du gouvernement. Mais les révélations restent explosives. Elles portent un sérieux coup à la réputation de l'opération Lavage à taux. Et même si les chances sont minimes, elles donnent un nouveau souffle à la défense de Lula qui devrait essayer de faire annuler la condamnation.
Nous sommes Ivan Golunov, titre plusieurs grands quotidiens russes aujourd'hui. Ce journaliste d'investigation arrêté jeudi dernier et accusé de trafic de drogue risque 20 ans de prison. Mais une bonne partie de la presse a décidé de lui apporter son soutien, Claude Boyot.
Des journalistes de renom que l'on ne peut pas soupçonner d'être proches des milieux russes d'opposition avaient donné le ton ces deux derniers jours en prenant eux aussi la défense d'Ivan Golunov. La une commune ce matin de Viedomosti, Kommersant et RBK, trois médias ensemble pour dénoncer les circonstances de l'arrestation du journaliste du site Medusa, a contribué à enfoncer le clou. À tel point que face à une telle solidarité, le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Pieskov, habituellement prompt à mettre en avant l'impartialité de la justice et de la police, a dû cette fois nuancer davantage son commentaire en reconnaissant, je cite, que le cas de Golunov fait naître beaucoup de questions. Sous la pression, les autorités policières ont même par écrit reconnu que des photos de leur service, représentant un atelier de fabrication de drogue, est garanti il y a 3 jours encore, comme provenant de l'appartement du journaliste d'investigation, avaient finalement une origine différente. Cette mobilisation, qui vire carrément au cafouillage pour les services concernés, trouvera sans doute un écho encore plus large après-demain, 12 juin, jour choisi par les nombreux soutiens d'Ivan Golunov pour organiser une marche à Moscou en vue d'obtenir sa libération définitive. Le 12 juin, férié dans tout le pays, sert à fêter l'unité nationale et la création de la Fédération de Russie en 1991.
Claude Bruyot, à Moscou. Kassym Jomart Tokayev est officiellement président du Kazakhstan, même si les observateurs ont dénoncé un respect insuffisant des normes démocratiques. Et malgré les manifestations, environ 500 personnes ont été interpellées hier. Le président Tokayev dit qu'il se placera dans la continuité de son prédécesseur, Nursultan Nazarbayev, qui conserve un rôle politique majeur. Coutumière des crises politiques, la Moldavie est à nouveau en plein bouleversement. Cette ex-république soviétique de 3 millions d'habitants, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, vient de voir son président démis de ses fonctions, le Parlement dissous et des législatives anticipées convoquées en septembre. Tout cela alors que les socialistes pro-russes et des partis pro-européens étaient parvenus à un accord inédit. Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir Aurélie.
Alors comment en est-on arrivé là?
Pour comprendre cette crise politique, il faut remonter au mois de février. Élections législatives, les socialistes pro-russes arrivent en tête sans obtenir la majorité. Au fil des semaines, ils ne parviennent pas à former une coalition et un gouvernement. Ce vendredi, plus de 3 mois après le scrutin, la Cour constitutionnelle moldave tape du poing sur la table. Elle demande officiellement la convocation de nouvelles élections. Le président socialiste, Igor Dodon, refuse de signer le décret de dissolution. Au contraire, dès le lendemain, il annonce qu'il a enfin conclu un accord de coalition avec l'alliance pro-européenne Akoum. L'objectif de cette alliance inédite entre pro-russes et pro-européens est clair. Écarter du pouvoir le troisième camp, le parti démocrate, parfois qualifié de pro-américain, et surtout son dirigeant, l'oligarque Vlad Plahotniuc. Ce dernier dénonce un coup d'État et fait défiler des milliers de ses supporters dans les rues ce dimanche. Et la Cour constitutionnelle moldave va le soutenir. Elle hausse une nouvelle fois le ton ce dimanche midi et suspend le président Dodon de ses fonctions pour donner le pouvoir au Premier ministre, Pavel Filip, qui lui se plie immédiatement à la demande de la Cour. Dissolution du Parlement, convocation de nouvelles élections a priori en septembre. Le camp pro-russe dénonce à son tour une tentative de détournement de pouvoir, car ce Premier ministre est membre du Parti démocrate, soupçonné de tirer les ficelles de la politique moldave depuis des années. Il a notamment sollicité la Cour pour faire annuler les élections municipales dans la capitale Chisino. Alors que certains craignent un scénario à l'ukrainienne, l'Union européenne, les États-Unis et la Roumanie voisine appellent au calme et à la retenue.
Merci Audrey Tison. C'est l'une des affaires de viol collectif les plus médiatisées au cours de ces 2 dernières années en Inde. Dans la région du Cachemire, une petite fille musulmane de 8 ans avait été enlevée, droguée, violée puis assassinée par des hindous. 6 hommes ont été condamnés aujourd'hui dans cette affaire qui avait fait grand bruit et provoqué des tensions religieuses. Les explications de Sébastien Farsi depuis New Delhi.
Le crime était prémédité et son exécution particulièrement sadique. En janvier de l'année dernière, un prêtre hindou demande à son neveu d'enlever une fille d'une tribu nomade locale. Selon la police, le religieux voulait effrayer cette communauté musulmane qui migre régulièrement avec ses bêtes dans cette partie à majorité hindoue du Cachemire. Le prêtre enferme alors l'enfant de 8 ans dans le temple et avec 2 autres hommes, il la drogue et la viole de nombreuses fois pendant 4 jours avant de la tuer de plusieurs coups de pierre sur la tête. 3 autres policiers vont ensuite les aider en effaçant toute trace du crime. Mais le jeune neveu se confie finalement à la police, entraînant l'arrestation des 6 personnes. Les hindouistes, dont le parti nationaliste hindou du BJP au pouvoir, défendent alors ses accusés, ce qui envenime encore plus la situation. Mais malgré ces pressions politiques et religieuses, la justice confirme finalement aujourd'hui la culpabilité de ces 6 personnes. 3 pour l'enlèvement, le viol collectif et le meurtre de la fillette, et les 3 autres policiers pour la destruction des preuves.
Sébastien Farsi, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Un hommage national leur sera rendu cette semaine. Ce matin déjà, quelques 15 000 personnes ont salué la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM, morts vendredi en tentant de secourir un marin pêcheur. La foule s'est recueillie sur les plages des Sables d'Olonne en Vendée et des fleurs ont été déposées sur le sable. Au large de la station balnéaire, une centaine de bateaux se sont rassemblés et ont fait retentir leurs sirènes. En ce lundi de Pentecôte, devenue il y a 15 ans journée de solidarité pour financer la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, l'intersyndicale du secteur de l'aide aux seniors demande un vrai geste du gouvernement. Les professionnels se plaignent d'une surcharge de travail et de salaires trop faibles. Les personnels d'EHPAD et de soins à domicile se rassembleront d'ailleurs le 1er juillet devant le ministère de la Santé pour réclamer plus de moyens à la ministre Agnès Buzyn. Mais les organisations réclament aussi une meilleure distribution des fonds récoltés lors de cette journée de solidarité, car une partie des crédits a été détournée par l'État, estime Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Ce lundi de Pentecôte, chaque année, rapporte 3 milliards d'euros. Depuis sa création, il y a 15 ans, l'État et les départements ont détourné 6 milliards d'euros. Ils ont servi à financer d'autres choses, des routes départementales, des collèges, l'aide aux personnes pauvres, le fonds de réserve des retraites, toutes choses extrêmement utiles, mais il est inacceptable que ces éléments aient été financés par des crédits qui aurait dû aider mieux les personnes âgées. Créer 2 postes nouveaux dans chaque établissement et service à domicile, ça coûte 1,5 milliard. Donc si l'État et les départements rendent les crédits détournés depuis 15 ans, nous avons de quoi financer 4 fois ce que nous demandons. Donc vous voyez bien que les moyens du financement de ce que nous demandons, ils sont là. Puis je vous rappelle par ailleurs que créer 2 postes dans chaque établissement, chaque service à domicile, ça crée 40 000 emplois. Ça fait 40 000 personnes qui quittent le chômage. C'est donc en plus extrêmement positif pour l'ensemble de l'économie française.
Patrick Chanvert au micro de Steven Gouaillet. Les autorités kurdes réclament depuis plusieurs mois le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes étrangers. Les camps de déplacés qu'elles gèrent dans le nord-est de la Syrie sont surpeuplés et les conditions de vie y sont très précaires. Fin mai, le défenseur des droits a d'ailleurs appelé l'État français à venir en aide aux enfants retenus dans ces camps. Mais les retours se font au compte-goutte, les situations étant examinées au cas par cas. 5 orphelins français sont rentrés le 15 mars dernier. Rien ne s'est passé depuis, jusqu'à l'arrivée à Paris ce matin de 12 enfants. Selon le ministère des Affaires étrangères, ces enfants sont tous des orphelins, isolés et particulièrement vulnérables. Certains sont malades et dénutris, Sophie Parmentier.
On sait que ces 12 enfants français sont tous très jeunes. Le plus petit est un bébé d'un an, le plus âgé est un garçon de 12 ans. Il y a parmi ces enfants des fratries et aussi des enfants qui rentrent totalement seuls, comme cet enfant qui a perdu ses 2 parents et tous ses frères et sœurs dans un bombardement l'hiver dernier, peu avant la chute de Baghouz. Cela faisait des mois que tous ces enfants vivaient dans des camps du Kurdistan syrien. Le Quai d'Orsay indique que plusieurs d'entre eux sont orphelins, mais pas tous. Certains sont décrits comme isolés ou très vulnérables, selon les termes employés par le ministère des Affaires étrangères, qui ne tient pas à détailler les critères de vulnérabilité selon lesquels ces enfants ont été choisis pour le rapatriement. En tout cas, pour la première fois, la France a aussi rapatrié les enfants d'une Française djihadiste qui reste prisonnière des Kurdes à Roj, une des rares Françaises qui avait accepté depuis longtemps de se séparer de ses enfants. L'un de ses enfants est le fils d'un Français originaire de Lunel, récemment condamné à mort en Irak. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous ces enfants rapatriés aujourd'hui sont dans un état de grande fatigue physique. Ils sont dénutris. Selon nos informations, l'un d'eux avait aussi une blessure de guerre, en partie soignée. Dans l'avion qui les a rapatriés en France, un avion militaire de la République, il y avait un médecin pour prendre soin d'eux. Et ces 12 enfants français ont commencé à subir des examens médicaux à l'hôpital. Ils ont aussi été placés d'office sous la protection de l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice. Des juges des enfants les confieront peut-être plus tard à leur famille élargie.
Et un autre groupe d'orphelins français pourrait être remis à la France prochainement. Depuis la mort de son fils, tué par Mohamed Merah en 2012, Latifa Ibn Ziaten consacre sa vie à la prévention de la radicalisation. Elle a fondé l'association IMAD, Association pour la Jeunesse et la Paix, et fait la promotion du vivre ensemble dans les écoles comme dans les prisons. Sa présence dans les médias lui vaut de nombreuses louanges, mais aussi des menaces. Et la nuit dernière, à Sotteville-lès-Rouen, son domicile a été tagué avec des inscriptions à la gloire de l'assassin de son fils. Écoutez la réaction de Latifa Ibn Ziaten.
Partout, c'est marqué « Vive Merah, sale juif, on va t'avoir bientôt, Latifa ». De voir ça, ça fait froid au dos et je suis pas bien du tout. pourquoi tout ça, pourquoi moi, qu'est-ce que je fais de mal. Je pense que j'essaie de tendre la main à toute cette jeunesse, certaines jeunesse qui a besoin. Je suis sur le terrain pratiquement tous les jours, hein. Depuis que j'ai perdu mon fils, j'ai fait que ça. J'essaie de d'aider cette jeunesse qui a besoin vraiment, aussi les parents, pour éviter un autre méra, pour éviter un autre drame. J'essaie d'apporter, j'essaie d'aider. Je fais que le bien, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi autant de haine? Pourquoi cette violence gratuite? Ça fait peur, voilà. Je vous le cache pas, j'ai peur là. Chez moi, ça fait peur.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fait part de son indignation et de sa détermination à ce que les auteurs de ces actes se retrouvent devant la justice. À l'heure où la recrudescence de l'antisémitisme préoccupe les autorités allemandes, les actes antisémites ont augmenté de près de 20% l'an dernier. Il faut aussi souligner les initiatives en faveur du vivre ensemble. À Berlin, dans le quartier de Kreuzberg, une synagogue, presque totalement détruite lors de la nuit de Cristal, va être reconstruite à l'initiative d'un élu d'origine palestinienne. Et la fille de l'ancien architecte du bâtiment est venue d'Australie pour soutenir le projet. Le reportage de David Philippot.
De Sydney à Berlin, Beate Hemmet a fait le voyage. Sa famille lui a payé le billet d'avion pour son 90e anniversaire. Grâce à la radio, elle avait appris qu'une synagogue, dont son père fut l'architecte, allait être reconstruite à l'identique dans la capitale allemande, à l'initiative d'un élu social-démocrate, Raed Saleh. Ils se rencontrent ce jour-là dans le quartier de Kreuzberg.
Hello, nice to meet you. My name is Raed Saleh.
Sorry.
I'm Raed Saleh from...
Je suis Raed Saleh, du SPD.
Oh, c'est vous, mais vous existez vraiment?
Cette petite dame frêle est l'élu d'origine palestinienne, se serre dans les bras. Il lui montre un endroit vide situé dans un jardin.
Là, il y aura la synagogue.
Beate lui dit que le Berlin de son enfance a bien changé.
Il en reste peu de choses. La seule dont je me souviens, ce sont les horloges au croisement de circulation. C'est tellement allemand de toujours garder l'œil sur l'heure.
Sa mémoire traumatisée a effacé beaucoup de choses, mais elle conserve encore le souvenir de la nuit de Cristal, le 9 novembre 1938.
Ma mère m'a pris par la main pour me montrer les ruines encore fumantes et je me souviens encore comment les nazis avaient réveillé mon père après minuit, la nuit d'avant, pour être bien certain qu'il voit sa synagogue adorée réduite en cendres. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ce moment et sa déportation vers le camp de Theresienstadt. Fati, je me souviens. Pas de l'architecte, je n'avais que 9 ans.
Pour Beate, ce sera l'exil d'abord vers l'Angleterre, puis vers l'Australie, où l'accueillera la sœur de son père, Alexander Baer, mort en 1944. La seule rescapée de la famille, partie avec la valise préparée par sa mère.
My mother put some very curious things into my...
Ma mère m'a mis dedans des choses très curieuses, par exemple des jumelles d'opéra. Elle a dû penser que j'en aurais besoin un jour. Et puis j'ai pris ma poupée Peter qui a voyagé avec moi. Une poupée garçon, ce qui n'était pas courant à l'époque. Je les ai remis au musée juif de Sydney.
L'Australie où Beate Hemmet a fait sa vie et où l'extrême droite a fait une percée aux législatives du mois dernier.
C'est partout, en Amérique, en Australie, partout. C'est effrayant et je n'aime pas cela. Des fois, je me dis que je suis contente d'être à la fin de ma vie quand je vois comment ce monde évolue. Je n'ai plus envie d'en faire partie.
Sur la résurgence de l'extrême droite radicale et du populisme, il faut savoir dire très clairement ça suffit. Et c'est pour cela que cette rencontre aujourd'hui et la synagogue sont un symbole de notre nouvelle Allemagne, à laquelle on appartient tous, peu importe qu'on soit chrétien, juif ou musulman, ou qu'on soit croyant ou pas. Et c'est pour cela que cet endroit au cœur de Berlin, au cœur de l'Europe, si on veut, au milieu d'un quartier très multiculturel et très multiethnique, est le bon endroit. Comme on dit, celui qui construit reste.
Avec le retour des Juifs en Allemagne, des lieux comme la synagogue des rives du quartier de Kreuzberg trouvent une nouvelle vie, une vie 75 ans après la guerre, toujours sous surveillance. Deux policiers sont en faction jour et nuit devant ce bâtiment, bardé de caméras de sécurité.
David Philippot à Berlin pour France Culture. Parenthèse culturelle pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est rendu à Ornans dans le Doubs pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Il a salué le goût pour la liberté et l'utopie du peintre et sa volonté de transgresser. Et à cette occasion, le président a aussi fait la promotion du pass culture qui vient d'être étendu à une dizaine de départements. Ce pass offre 500 euros de loisirs culturels aux jeunes de 18 ans. Demain, mardi, il y aura encore beaucoup de pluie et de la fraîcheur. Les ondées seront plus faibles et entrecoupées d'éclaircies sur la région parisienne, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Et l'extrême sud-est restera au sec. Demain matin, il fera entre 6 et 18 degrés. L'après-midi, 14 sur la pointe bretonne, 15 à 20 en général, jusqu'à 28 en Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.